Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porret est un texte majeur de la mystique chrétienne de la fin du XIIIe siècle. Redige en langue francaise médiévale et transmis ensuite par des traductions et des manuscrits. Elle ouvrage, souvent présente comme un chef-d'œuvre de la première littérature spirituelle en francais. De créer la dynamique de l'amour divin et la voie intérieure par laquelle l'âme se dépouille de sa volonté propre jusqu'à l'union à Dieu. Il ne s'agit pas d'un trait systématique au sens scolastique, mais d'une mise en scène dialogique et symbolique, où des figures telles que l'âme et l'amour servent à explorer des états spirituels. Cette radicalité, qui déplace les repères habituels de la médiation religieuse et des pratiques, a contribué à la controverse entourant l'auteur, Béguine associé au milieu des mystiques du nord de l'Europe médiévale. Le livre vise moins à informer que transformer le lecteur en l'invitant à comprendre, puis à consentir à la logique du pur amour. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la voie du pur amour et la logique de l'anéantissement. Le cœur du livre est une méditation sur le pur amour, entendu comme un amour de Dieu qui ne cherche ni récompense ni sécurité spirituelle. Dans cette perspective, l'âme avance en renonçant progressivement à se posséder elle-même. L'anéantissement ne désigne pas une destruction psychologique, mais une désappropriation intérieure. La volonté propre cesse de se prendre pour centre, et l'âme ne se définit plus par ses mérites, ses calculs ou ses consolations. Porret présente cette transformation comme un passage vers une simplicité nue, où le désir les purifie et rendu conforme à l'amour divin. L'accent mis sur la gratuite et sur la perte de l'appropriation spirituelle distingue cette mystique des itinéraires plus axés sur la progression par les œuvres ou par accumulation de vertus visibles. L'anéantissement devient alors un langage pour dire la liberté paradoxale de l'âme, liberté qui naît quand elle ne se soutient plus sur elle-même. Ce thème explique aussi la force provocatrice du texte dans son contexte médiéval en parlant d'une union qui dépasse les appuis ordinaires. Il oblige à repenser ce que signifie obéir, vouloir et aimer, deuxièmement les étapes de la transformation intérieure. Le miroir est souvent lu comme la description d'une progression spirituelle en plusieurs phases, où l'âme traverse des états différents avant d'atteindre une forme de repos en Dieu. Sans réduire l'œuvre à un schéma rigide, le texte met en scène des transitions de la vie encore gouvernées par la crainte ou le calcul vers une vie mue par l'amour, puis vers une condition où l'âme ne se rapporte plus à Dieu comme à un objet extérieur. Cette pédagogie passe par des renversements, ce qui paraissait vertu peut devenir attachement, et ce qui ressemble à perte peut devenir gain spirituel. Le parcours insiste sur la purification du vouloir, car la question décisive est moins ce que l'âme fait que ce qu'elle veut, et la manière dont elle veut. Ainsi, la transformation touche à l'intention, la relation au désir et la façon de comprendre la présence de Dieu. Porret décrit aussi une connaissance qui n'est pas d'abord discursive, il s'agit d'une intelligence amoureuse, qui se forme par l'expérience intérieure et par la dépose de la possession de soi. Le lecteur est donc conduit à considérer la conversion comme un changement de centre de gravité, plus que comme une simple amélioration morale. Troisièmement, un langage allégorique pour dire à l'indicible. Un des traits marquants de l'ouvrage est son mode d'expression. Porret recourt à une forme dialogique et allégorique, faisant intervenir des voix qui personnifient des réalités spirituelles comme âme, amour ou la raison. Ce dispositif permet de dramatiser une tension classique de la mystique, la raison veut encadrer et mesurer, tandis que l'amour pousse au dépassement et au consentement à ce qui ne se possède pas, en donnant la parole à ces figures. Le texte rend visible un conflit intérieur que beaucoup de lecteurs reconnaissent le besoin de contrôle face à l'appel d'une confiance sans garantie. Le style, souvent rapproche de sensibilité poétique médiévale, vise moins la démonstration que la suggestion. Il cherche à conduire l'esprit jusqu'au point où les mots deviennent insuffisants, puis à laisser percevoir une autre forme de compréhension. Ce choix littéraire explique à la fois la beauté et la difficulté du livre. Il faut accepter de lire lentement, de se laisser instruire par des images. Des paradoxes et des reprises. Cette écriture devient elle-même une méthode spirituelle, car elle oblige à la patience, à l'humilité intellectuelle et à l'attention aux nuances. Quatrièmement, union à Dieu et dépassement de l'ego spirituel. Le miroir propose une vision exigeante de union à Dieu. L'union ne consiste pas seulement à imiter Dieu de loin, mais à consentir à une transformation si profonde que l'âme ne se prend plus comme référence principale. Porret décrit une condition où l'âme, devenue simple, ne vit plus dans l'alternative entre réussite et échec religieux. Elle cesse de se regarder aimer et se laisse plutôt aimer. Ce qui constitue une critique implicite de l'ego spirituel, c'est-à-dire la tendance à faire de la vie religieuse un territoire d'auto-affirmation. Une telle perspective peut être comprise comme une libération. Quand l'âme n'est plus obsédée par sa perfection, elle devient disponible à l'amour. Mais elle est aussi périlleuse si on la détache de la prudence et du discernement. Le texte avance sur une ligne de crête entre la plus haute exigence intérieure et le risque de. Malentendu, surtout lorsqu'on confond liberté spirituelle et absence de repères. Dans le contexte médiéval, cette radicalité a pu être perçue comme une remise en cause de cadres établis. Le livre, toutefois, se comprend de d'abord comme une phénoménologie de l'intériorité contemplative, explorant comment l'amour transforme la conscience et le vouloir, en dernier lieu. Un texte situé dans la mystique médiévale et le milieu béguinal, Marguerite Porrette est associée au monde des béguines. Ces femmes pieuses vivant hors des structures monastiques strictes, souvent engagées dans une vie de prière et de charité. Le miroir s'inscrit dans un large courant de mystique du nord de l'Europe, voisin par certains thèmes de grande voie médiévale. Et il dialogue implicitement avec les questions théologiques de son temps. Sa réception historique fut tumultueuse, l'auteur fut condamné pour hérésie et exécuté en 1310, ce qui a marqué durablement la mémoire du texte. Cette histoire ne réduit pas le livre à un document polémique, mais elle aide à comprendre pourquoi sa parole sur l'amour et l'anéantissement a été jugée dangereuse. L'ouvrage propose une vie intérieure qui peut sembler contourner les médiations ordinaires si on la lit sans nuance, et cette ambiguïté a fait l'objet de discussions savantes, notamment sur la place de l'Église, des sacrements et de l'enseignement, pour le lecteur contemporain. Cette dimension historique ajoute une couche de lecture, le livre est à la fois une œuvre spirituelle et un témoignage sur les limites de ce qu'une femme mystique pouvait dire, publiquement au Moyen-Âge. Il conserve ainsi une puissance singulière, à la croisée de la littérature, de la théologie et de l'histoire religieuse. En conclusion, le miroir des âmes simples et anéanties s'adresse avant tout au lecteur intéressé par la mystique chrétienne, la théologie spirituelle et à l'histoire des formes de vie religieuses au Moyen-Âge. Il convient aussi à ceux qui cherchent une exploration exigeante de l'intériorité, à condition d'accepter un texte symbolique, parfois dégoûtant, et de le lire avec lenteur. Son bénéfice principal est double intellectuel, parce qu'il oblige à penser la relation entre amour, volonté et liberté au-delà des catégories morales élémentaires. Pratique, parce qu'il offre une grammaire pour reconnaître les attachements subtils, notamment à l'appropriation de sa propre vie spirituelle. Le livre se distingue de nombreux traits de dévotion par sa radicalité et sa qualité littéraire au lieu de proposer des exercices. Il décrit une transformation du vouloir, et met en scène la lutte entre raison contrôlante et amour qui dépasse, par rapport à d'autres classiques de la contemplation. Il porte une voix singulière par son ancrage en langue vernaculaire médiévale et par son lien au milieu béguinal, ainsi que par la trace historique de la controverse. Pour en tirer le meilleur, une lecture accompagnée, par une introduction ou des notes, peut aider à situer les termes et à éviter les contresens, tout en laissant agir la puissance de son appel au pur amour. Si vous souhaitez soutenir Marguerite Porrette, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. Au bientôt.